Alors, le premier texte est tiré du livre d'Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 4. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplatissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Le deuxième texte est tiré de la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3 et au verset numéro 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Enfin, le troisième texte est le commencement de l'évangile de Marc, chapitre 1, et versets de 1 à 13. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. » Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. Aussitôt, l'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Ce début de l'évangile de Marc, commencement, nous replace dans la ligne du premier testament de la Genèse, Bereshit, à l'origine, au commencement. Et nous rappelle aussi le début de l'évangile de Jean. On sent bien que le choix de ce mot est un point d'appui et l'annonce d'une suite particulière, un commencement. La première phrase du texte ne comporte pas de verbe, elle est comme un titre qui place tout de suite la suite du texte dans cette annonce « Jésus, Christ, Fils de Dieu ». En très peu, tout est dit. La phrase suivante trace la ligne de continuité, de la cohérence avec le premier testament en citant le prophète Ésaïe. On ne peut passer aux oubliettes ceux qui précèdent, tout se tient. La vie de Jésus est indissociable des textes précédents, elle en est une suite logique. De même, Jean-Baptiste immédiatement cité dans la suite du texte, sera lui aussi dans la même continuité, dans la même ligne prophétique que ceux qui l'ont précédé. Une longue lignée de prophètes le précède et il y prend sa place de façon naturelle. Il n'y a pas de coupure, mais une longue histoire qui se poursuit. Et ce point de parfaite continuité me semble fondamental. C'est pourquoi il ne me semble pas toujours pertinent de parler d'Ancien et de Nouveau Testament. Il me semble que les termes de Premier et Second Testament sont plus adaptés, car il me semble mieux montrer cette continuité en plaçant l'enseignement de Jésus dans une richesse d'une ouverture nouvelle à l'intérieur même du judaïsme de son temps. Judaïsme qui, en son temps, a beaucoup de tendances différentes. Et il me semble que l'enseignement de Jésus en est une expression qui va être contestée par certains et qui va être suivie, bien sûr, par beaucoup d'autres disciples. Et l'évangile de Marc est une facette de cet enseignement. Et la citation qui suit place le texte de Marc immédiatement dans la suite du livre d'Ésaïe et montre que l'enseignement du rabbi Jésus apporte alors une réflexion nouvelle sur la loi telle qu'elle était comprise en son temps. Ce texte attribué à Marc est donc l'annonce de cette bonne nouvelle qui va être racontée tout au long du texte. Sans aller toutefois jusqu'à la résurrection de Jésus, on se rappelle que dans la première version du texte de Marc, on voit à la fin les femmes apeurées devant le tombeau vide. Cette bonne nouvelle, telle que Marc nous la conte, annonce un nouveau commencement. On ne sait pas encore ce que Jésus fera, mais dès le début du texte, on a le point clé de sa personne, Christ est Fils de Dieu. D'ailleurs, le terme de Fils de Dieu peut être ressenti comme provocateur. Si l'on considère que le texte s'adresse aux Juifs, mais aussi au monde romain, où l'empereur était considéré tel un dieu, les termes de Messie, Fils de Dieu, dépassent alors le statut de l'empereur. Et ceci n'est pas rien dans la société romaine. Mais tout ça montre aussi que tout le monde est concerné. Ensuite, on voit apparaître le personnage de Jean-Baptiste, introduit par une citation du livre d'Ésaïe. Cette citation, on peut comprendre qu'elle est introduite comme étant celui dont la voix annonce en toute humilité l'importance de celui qui vient à sa suite. Il est là pour préparer le sens de cette venue. Et l'enchaînement du texte nous suggère qu'il peut s'agir de Jean le Baptiste quand on parle de cette voix qui crie dans le désert. La citation qui précède le laisse supposer « J'envoie devant toi mon messager, c'est celui qui crie dans le désert ». Et au verset 4, on nous dit « survint Jean ». Donc on peut faire le lien entre les deux. La description qui nous est faite de ce personnage, de Jean-Baptiste, est celle d'un ascète, habillé d'une peau de bête, se nourrissant de ce qu'il trouve dans la nature. Cela le rapproche par son mode de vie d'autres prophètes vivant dans le désert. Par exemple, dans le deuxième livre des Rois, on nous parle d'un homme vêtu d'un vêtement de poil et d'un pagne de peau autour des reins, qui est identifié comme étant le prophète Élie. Et aussi, dans Zacharie, on lit que le prophète se vêt d'un manteau de poil. On voit donc que, jusque dans la description vestimentaire de Jean le Baptiste, on le place bien dans la lignée de tous ceux qui ont eu à annoncer des faits nouveaux au peuple d'Israël. Jean-Baptiste est un véritable prophète, défricheur, comme dit le texte, défricheur des chemins. On peut s'arrêter un moment sur cette citation qui évoque le désert. La description également de ce lieu désertique, où il semble difficile de se déplacer, mais où il faut reconstruire en aplanissant les sentiers, peut aussi évoquer dans le livre d'Ésaïe les nombreux sièges, les guerres qui ont frappé Israël et qui ont conduit à l'exil à Babylone et qui obligeront justement à reconstruire, à survivre, quelles qu'aient été les difficultés. Cela renforce la symbolique de ce lieu où sont lavés de leurs fautes ceux qui justement sont invités à reconstruire après le lavage rituel de leurs péchés. C'est donc à l'écart du monde, hors de la ville, que les habitants de Jérusalem se pressent auprès de Jean-Baptiste pour être libérés de leurs fautes. Cette démarche symbolique exprimait le désir de s'écarter de tout ce qui faisait la vie habituelle. Ceux qui venaient là se conformaient à la loi, telle que cela se vivait également dans la communauté de Qumran, qui pratiquait ce baptême de repentance, ce geste rituel. Une recherche de pureté motivait ceux qui se présentaient au bord du Jourdain. Et voici qu'en ce lieu, Jésus reçoit le baptême. Jésus a été annoncé par le Baptiste comme puissant. Et l'on sait déjà que le baptême prendra avec lui un sens différent. Jean-Baptiste l'annonce en parlant de Jésus. Il dit « Il vous baptisera d'Esprit Saint ». Pour nous, actuellement, ça ne semble pas, ça semble une affirmation naturelle. L'Esprit Saint, à l'œuvre dans le sacrement du baptême, cela ne nous surprend pas. Mais il faut se replacer dans l'optique de ceux qui sont là, présents au bord de l'eau, et qui viennent, comme d'habitude, se libérer de leurs fautes. On peut imaginer qu'ils se posent des questions en se demandant ce que peuvent bien ajouter ces paroles au rituel habituel. Et nous savons, nous, justement, quand on annonce que Jésus vous baptisera d'Esprit Saint, on sait très bien qu'aucun texte ne décrit justement Jésus en train lui-même de baptiser, comme le laissent supposer les paroles de Jean-Baptiste. Que va donc apporter ce nouveau baptême tel que Marc nous le décrit ? Une piste de compréhension peut nous être donnée dans la suite du texte qui nous amène avec Jésus au désert. Aussitôt, Jésus est chassé 40 jours au désert. Là, on le voit résister à Satan qui va le mettre à l'épreuve, sans que dans le texte de Marc, nous ayons les détails que nous aurons dans ces épreuves, dans les évangiles de Matthieu ou de Luc. Mais grâce à cet Esprit Saint, le mal sera vaincu. Ce nouveau baptême donne une force nouvelle qui va au-delà des tentations du monde. Comme si sa première expérience d'homme porteur d'Esprit Saint va conduire Jésus à être vainqueur du mal. Car c'est ainsi que se manifestera la force qu'il a reçue. On se souviendra bien sûr des 40 années que le peuple hébreu passa dans le désert et qui sont racontées dans le livre de l'Exode. Lieu où le peuple s'adonnera à l'adoration d'un faux Dieu. Donc, là où le peuple sera piégé par le mal. Alors qu'ici Jésus, 40 jours dans le désert, montrera la manifeste victoire de Jésus sur Satan. Et voici ensuite au verset 9 et 10 que paraît sans doute la véritable identité de Jésus. C'est sans doute le point essentiel du prologue de Marc. On lit, les cieux se déchirent. On peut se souvenir du voile du temple qui se déchirera à la mort de Jésus. On voit Jésus sortant de l'eau et il voit les cieux se déchirer et l'esprit descendre vers lui comme une colombe. La colombe, qui est symbole de pureté, est à opposer aux esprits impurs que l'on verra posséder certains êtres et qui seront chassés par Jésus. Cet Esprit Saint va lui permettre d'exorciser et de guérir. La voix entendue marque alors, sans conteste, solennellement, la véritable identité de l'homme Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Ce lieu du baptême est le lieu du véritable engendrement du Messie, investi par Dieu d'une mission, enfant de Dieu et porteur d'une parole. Dans cette formule, toute la mission du Christ est contenue. Et nous, qui sommes baptisés, quelle force supplémentaire nous fait traverser le désert? Cette force, cette grâce qui nous est offerte, nous permet-elle un vrai changement? Car on voit bien dans le texte lu que vaincre le mal ne sera possible que si nous ressentons, si nous acceptons profondément en nous ce changement que peut nous apporter une véritable conversion, un vrai changement de voie dans nos vies. Et le baptême en est une manifestation, une affirmation devant la communauté de ce changement personnel et intime. Quand le petit enfant est baptisé, ce sont ses parents qui espèrent en lui un jour ce changement. Mais avant toute chose, c'est quand nous sommes assez grands, adultes, que nous revient cette reconnaissance intime avant toute manifestation publique. Notre baptême n'est plus ce qui nous lave de nos péchés, comme au temps de Jean-Baptiste, car nous savons que par grâce, nos péchés sont pardonnés. Mais ce baptême est un signe qui exprime un choix personnel de suivre la parole que Dieu nous donne à travers l'enseignement de Jésus. Et qu'en est-il de notre désert? La solitude, nous voyons bien qu'elle peut toucher n'importe lequel d'entre nous. Se tourner dans toutes les directions sans savoir où se diriger, nous voyons bien de quoi il s'agit. Être tenté dans le désert de nos vies, d'assouvir nos désirs de vengeance, nos soifs de posséder plus, le désir d'être reconnu dans notre prétendue importance, là aussi on voit de quoi il s'agit. Quand on avance sans la parole qui est ce guide proposé par Jésus, on se perd. Comment, sans cette parole pleinement acceptée, serait-il possible d'aplanir le chemin, de trouver quelle est la bonne route? Le désert peut être aussi un lieu de réflexion. La solitude peut nous permettre de nous retrouver, de mieux comprendre où nous en sommes. Et pour cela, le lieu privilégié du désert n'est-il pas le temps de la prière? Un temps de retrait où se placer face au Seigneur qui nous propose humblement de faire le point, de prendre le temps de chercher à analyser ce qui nous trouble, de laisser derrière nous les charges trop lourdes qui nous empêchent de passer par cette porte étroite que Jésus nous propose. Oui, parce qu'il n'est pas facile d'être seul dans le désert de nos vies, ni d'accepter ce passage d'une vie à l'autre. Je veux parler de la conversion, ce changement d'un monde matériel à un monde spirituel, eh bien justement, nous ne sommes plus jamais seuls, nous sommes accompagnés. Il n'y a jamais de solitude pour celles et pour ceux qui ont accepté cet Esprit Saint qui nous donne la main. C'est en écoutant cet enseignement de Jésus, par notre conversion profonde, qui ne peut être que notre propre choix, que l'espérance aplanira les reliefs difficiles et les escarpements que nous avons à traverser. Amen.